Le bal à la veuve Biessard, donc c'est le chapitre 8 de la première partie. Dernière ligne qui précède l'épisode du bal à la veuve Biessard. Elle allait jusqu'à la hêtrée. Emma se répétait, c'est son premier mot de femme mariée, au style direct, je veux dire. Mon Dieu, pourquoi me suis-je mariée ? Elle se demandait s'il n'y aurait, c'est juste avant le bal à la veuve Biessard. Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme, et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant. Puis quelques lignes après, commence le bal à la veuve Biessard, sur lequel je vais vous proposer de travailler. Et le dernier chapitre de la partie 1, numéro 17, ça finit comme ça. Un jour, elle se piqua les doigts à quelque chose, c'était un fil de fer de son bouquet de mariage. Quand on partit de Tôte, au mois de mars, Madame Bovary était enceinte. Fin de la première partie de Madame Bovary, qui en compte 3. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 7 et le chapitre 9 ? C'est donc le bal à la veuve Biessard. Et moi aussi, en fait, je vais vous parler de l'inefficacité socio-symbolique du rite, parce qu'on a pris, il n'y a pas que ça, hein, mais enfin, l'inefficacité socio-symbolique du rite décrit et de la magie performative de son récit littéraire. Pour dire que la littérature... Peut-être celle du 19e et une certaine littérature du 19e, c'est entre autres le lieu où le rite fléchit et où le rite se réfléchit. C'est ça le, un peu qui va conduire, qui a conduit jusqu'ici, mais enfin qui va conduire à ma proposition. Enfin, en partie, hein, parce que je vais avoir des trucs un peu pépères et puis des ensauvagements un peu plus hirsutes, mais bon, voilà. Donc je vais considérer le bal à la veuve Biessard comme une initiation potentielle à la vie mondaine, comme rite de passage, le bal comme rite de passage. Bon, c'est pas spécialement original, hein. Le bal comme un rite de passage mondain, comme le passage possible, ou désiré par Emma en tout cas, d'un monde à l'autre, d'un statut personnel à l'autre, d'une identité à l'autre. Alors, le bal, on peut disserter, dire que c'est un topos littéraire, un topos iconique, un topos de la critique 19e-iste et autres. En tout cas, c'est aussi un défi d'écriture pour Flaubert, exemplier 1. Il faut que je mette mon héroïne dans un bal. Il y a si longtemps que je n'en ai vu, le bal. Et puis, c'est si commun, c'est tellement dit partout, ce serait une merveille que d'éviter le vulgaire. Bon, là, c'est son projet quand il écrit à Louise. Bon. Alors, ce chronotope du bal se déploie. Pourquoi on a choisi le bal, si vous voulez ? Parce qu'il se déploie comme un motif récurrent dans le roman. Et... il en structure en partie la signifiance. La signifiance au sens de Riffater, c'est l'exemple 2. La véritable signifiance du texte réside dans la cohérence de ses références, de forme à forme, et dans le fait que le texte répète ce dont il parle, etc. Bon, je fais grâce de la suite, mais vous voyez un peu l'hypothèse de travail. Alors, ici, le bal est à la fois miroite le texte, parce qu'on va retrouver la rencontre, le couple et l'enterrement, en fait, dans le bal. Hein? On peut dire que le bal miroite le texte et constitue une matrice qui se dissémine et qui se diffracte dans le texte. Et quand je dis dans le texte, je veux dire dans l'intratexte et dans l'intertexte. Dans l'intratexte, je vais juste le signaler, hein? Dans l'intratexte, c'est la contredanse. Le quadrille, on retrouve les chevaux là d'ailleurs, qui précède la danse par couple qu'on va étudier de plus près. C'est l'exemple 3. On entendit une ritournelle de violon et l'essor d'un corps. Ça fait partie du bal. C'est la contredanse ou l'avant-danse, si vous voulez. Je ne m'en occupe pas, mais ça fait bien partie du texte. Dans l'intratexte, dans Madame Bovary, pour parler plus simplement, il y a encore d'autres bals. C'est le bal masqué de la mi-carême. C'est l'exemple 4. Le jour de la mi-carême, taratata. Dans l'intratexte, il y a aussi la valse C'est très beau d'ailleurs, enfin très intéressant, du musicien ambulant. C'est l'exemple 5. Dans l'après-midi, quelquefois, une tête d'homme apparaissait derrière les vitres de la salle, une valse aussitôt commençait, et sur l'orgue, dans un petit salon, des danseurs hauts comme le doigt, femmes en turban rose, singes en habit noir, etc., tournaient entre les fauteuils, etc. etc. Bon. Dans l'intratexte, enfin, je veux dire, dans l'économie narrative ou dans l'idiolecte du récit, on ne peut que noter l'absence significative de bal et de danse lors de la noce de Charles et d'Emma Oberto. Il y a tout sauf, ils ne dansent pas. Bon. On mange, on boit, on joue, on plaisante, on ne danse pas, ni en couple, ni en groupe. Dans l'intertexte, cette fois, c'est l'hypotexte de Cendrillon, dans la version écrite de Charles Perrault. Alors, j'y ferai allusion, mais je vous propose d'y revenir ensemble dans notre partie dialoguée. J'ai préparé un dossier dont on a parlé tout à l'heure, là, assez complet, qui pourrait susciter les questions et le débat. Et dossier qui peut avoir d'intérêt critique en soi. Si vous voulez, j'ai pas fait. Chaque fois, j'ai pris les sous-séquences du bal de Cendrillon, l'invitation, l'équipage, le départ pour le bal, l'accueil, les toilettes des jeunes femmes. Et chaque fois, je mets l'écho textuel. Et c'est assez enfin, frappant, si vous voulez, encore que personne n'ait vu jusqu'à présent. Mais c'est comme ça. Bon. Donc, il y aurait aussi cela à entrer dans l'épaisseur de la textualité du bal à la Vaubyessard. Dans l'intratexte comme dans l'intertexte, le bal est toujours lié directement à la danse, évidemment, et la danse à la sexualité et au mariage. Ça, la transgression réelle, une sorte de rêverie éveillée sur la conjugalité féminine et la socialité masculine. Alors ici, je propose d'étudier quelques aspects de ce bal à la Vaubyessard comme une forme de reproduction d'une structure narrative rythique. Bon, je renvoie à Rifater, au fond, finalement. En parlant d'un récit de rite, comme on parle d'un récit de rêve. Hein. Un récit de rêve, ce n'est pas le rêve. Un récit de rite, ce n'est pas le rite, bien entendu. Ou même d'un récit de conte. Le rite, le rêve et le conte combinent parfois leur cosmologie propre jusqu'à la coalescence dans un discours romanesque singulier. Ici, je propose, a priori, enfin, de commencer par dire qu'il s'agit d'un rite, du récit d'une initiation avortée, d'un passage raté, d'un passage inabouti, un ritus interruptus. C'est ainsi que la séquence du bal à la Vaubyessard est comme l'envers d'un conte de fées. Ce conte qui se défait, comme a dit Marie-Christine, c'est l'opposition du carrosse de Cendrillon à la rosse de Charles. C'est l'enchantement premier d'Emma, les fulgurations de l'heure présente, dit le texte, et le désenchantement sans fin de Madame Bovary. C'est une généralité pour l'instant. Cet échec douloureux de l'initiation est explicité en fait en ses propres termes par l'héroïne, c'est l'exemple 6. La musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles et elle faisait des efforts pour se sentir éveillée afin de prolonger l'illusion de cette vie luxueuse qu'il lui faudrait tout à l'heure abandonner. L'épisode de la Vaubyessard se clôt lui-même sur la mémoire du bal, une mémoire qui s'effiloche progressivement, inexorablement, la valse exceptée peut-être. Exemple 7. Toutes les fois que revenait le mercredi, elle se disait en s'éveillant « Ah, il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, j'y étais. » Et peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire. Elle oublia l'air des contredanses. Elle ne vit plus si nettement les livrées et les appartements. Quelques détails s'en allèrent. Mais le regret lui resta. Bon, on note déjà combien le corps est engagé dans le rite d'initiation et combien le passage est toujours matériel. Dans le rite dit justement de passage. Le rite de passage matérialise le passage. C'est son code, c'est son langage. Charles reste à sa place. Emma revient à sa place. Cendrillon change de place. Bon, c'est donc ce que je vais étudier de près maintenant. La scène de bal à la Vaubyessard est, semble-t-il, une mise en abîme de la séparation. Il y a des séparations dans la séparation, si vous voulez. Et de la marge rituelle. Il y a des marges dans la marge. Voilà. Hein. La grammaire du rite dont a parlé Marie. Voilà. La phase de marge est par définition en tension structurelle entre la phase de séparation. On peut toujours revenir en arrière. Quand on est fiancé, on peut se défiancer. Bon. Et la phase d'agrégation, où là, on ne peut plus revenir en arrière. Enfin, comme on disait autrefois, quand on est marié, c'est pour la vie. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette dynamique-là. Alors, je parle de mise en abîme, car ce sont bien ces variations évolutives dont parle Riffater, dans les modes de séparation et de marge, qui me semblent les matrices de notre récit de rite. Ainsi, pour accéder au temps de la marge initiatique, qui est un préalable à tout passage rituel réussi, séparation, marge, il convient d'abord de se séparer de son mode ou de son mode antérieur. Séparation 1. Emma se sépare physiquement et symboliquement de son époux. Le pantalon de Charles le serrait au ventre. Les sous-pieds vont me gêner pour danser, dit-il. Danser, reprit Emma. Oui, mais tu as perdu la tête, on se moquerait de toi. Reste à ta place. Il n'est pas voué au rite. D'ailleurs, c'est plus convenable pour un médecin, ajouta-t-elle. Merci le signifiant. Charles se tue. Un silence de mort. Madame Charles Bovary devient donc Emma, femme libre et seule. Elle éloigne et s'éloigne de son statut de femme mariée, qui n'est pas encore mère. Hein. Séparation 2. L'air du bal était lourd. Les lampes pâlissaient en refluaient dans la salle de billard. Un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres. Au bruit des éclats de verre, Madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors, le souvenir des Berthaud lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse sous les pommiers. Elle se revit elle-même comme autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais, aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là. Puis, autour du bal, il n'y avait plus que de l'ombre étalée sur tout le reste. Emma, donc, voit sa vie passée comme passée. Sa propre biographie lui semble comme étrangère, étant à s'évanouir de sa propre conscience. Cette brisure existentielle, en tout cas pour l'heure, cette rupture mémorielle, conduit à refouler quoi ? Ben, le monde paysan natif, son enfance orpheline et rurale, sa vie de très jeune femme à la ferme. Elle rompt ainsi doublement avec son statut de femme mariée, puisque c'est son père qui l'a mariée. S'il me la demande, je la lui donne. Et que c'est au Berthaud qu'elle s'est mariée. Elle enterre ainsi imaginairement son enfance, sa jeunesse, excepté peut-être son passage chez les Ursulines au couvent. Elle enterre son enfance, sa jeunesse, son mariage. Elle enterre son passé biographique comme les instances paternelles et maritales. Cette forme de déni et ce mode de désaffiliation la disposent sur le plan ontologique et la prédisposent sur le plan symbolique à s'insérer dans la poursuite du processus rituel. Le texte le signifie en trois mots. Elle était là. C'est pas elle resta là ou elle restait là. Elle était là. Hein? Une espèce de preuve par corps de son être. Une espèce de certitude existentielle, présence à elle-même et aux autres. Une forme de présence assurée et assumée. Une sorte de cogito ergo sum, salto ergo sum. Je vais danser, donc je suis. Je danse, donc je suis. Hein? Je suis là, donc je danse. Je danse, donc je suis là. Je ne sais pas, c'est Descartes, ce qu'il aurait dit, mais bon. C'est un sujet entier, une présence d'être. Même si l'imparfait à valeur durative présente quelque chose d'ambivalent ou d'incertain. Hein? En tout cas, elle n'est plus la même, elle n'est pas encore une autre. Alors, cette situation d'entre-deux est nécessitée par tout rite de passage. Pour l'heure, Emma est cette présence à elle-même et au rite. Elle est présente là, elle est prête. Le reste, l'ombre étalée sur tout le reste, fera retour. Parce que enterrer sa vie de garçon ou enterrer sa vie de jeune fille, c'est pas la faire disparaître. C'est même pas l'oublier, hein, c'est la dépasser. Bon, donc, le reste, il est là. Bon, voyons comment se présente donc cette présence dans la phase de marge. Alors, je me réfère à Marie. On peut repérer quatre grandes composantes constitutives de la marge initiatique en général, au moins quatre. la présence d'un passeur, une épreuve par corps, un désordre symbolique et le tutoiement d'un autre monde. Marie parlait de folie, de mort. On n'est pas fou ni mort, mais c'est le tutoir, le voisin. Bon. À 3h du matin, le cotillon commença. Emma ne savait pas valser. Cependant, un des valseurs qu'on appelait familièrement Vicomte vint une seconde fois encore inviter Madame Bovary, l'assurant qu'il la guiderait et qu'il s'en tirerait bien. Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient, tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris et le parquet. En passant auprès des portes, la robe d'Emma, par le bas, s'ériflait, frôlée en français national, au pantalon. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. C'était censuré aussi ça. Il baissait ses regards vers elle, elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait. Elle s'arrêta. Ils repartirent. Et d'un mouvement plus rapide, le vicomte, l'entraînant, disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber et un instant s'appuya la tête sur sa poitrine. Il la reconduisit à sa place, elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux. Quand elle les rouvrit, une dame choisit le vicomte et le violon recommençait, on les regardait. Ah, elle savait valser, celle-là. Présence d'un passeur. C'est le vicomte qui joue ici, c'est écrit quasiment, le rôle du passeur, de l'auxiliaire, de l'adjuvant. Il est le guide. Dans le langage du bal. 2. La valse constitue pour Emma, manifestement, une épreuve par corps. Une épreuve et une preuve qualifiante. Ou non, on peut faire du propre si on veut. Hein, mais elle s'en tirera bien, lui promet son maître danseur-passeur. C'est une expérience du corps et un apprentissage par corps. Et même par incorporation de codes nouveaux. Cet apprentissage exclut ici la parole. Il n'est question que du corps des valseurs et de leur tenue cérémonielle. C'est donc l'appropriation pratique et symbolique d'un code chorégraphique de classe, à part elle, tout le monde sait valser, c'est écrit. C'est donc s'engager tout entier, aller tout entier vers un autre monde, c'est s'engager tout entier, en quelque façon, dans une initiation qui est à la fois socio-somatique, c'est une technique du corps, socio-sémiotique, hein, c'est un codage, la danse, et socio-symbolique, puisque c'est le propre des mondes aristocratiques ou dominants. Troisième point, c'est un temps de désordre symbolique, la marge, ou l'initiation. Par exemple, dans un bizutage, vous voyez, pour quand vous passez, je prends des références en français, mais vous avez passé le bac et vous intégrez une école d'ingénieur, par exemple. Donc, vous progressez. Mais le bizutage consiste à vous faire marcher à quatre pattes, lécher l'eau. C'est-à-dire, pour progresser dans la culture du rite, pour progresser, il faut régresser. C'est clair. C'est pas du tout l'organisation scolaire du monde. On peut le dire franchement comme ça. Pour progresser, il faut régresser. Enfin, les autres vous font régresser. Alors, qu'est-ce à dire ici le désordre symbolique? Le procureur général, lors du procès, fait à Flaubert, soulignera l'érotisation des regards qui se croisent et des jambes qui s'entrecroisent, le corps à corps de la danse par couple et la danse à corps perdu comme un diagramme de l'acte sexuel. Emma, haletante, faillit tomber et un instant s'appuya la tête sur sa poitrine. Ce qu'il ne faut pas faire. Mais Emma confond donc couplet et s'accoupler. Un couple de valseurs, ce n'est pas un accouplement de valseurs. Et significativement, quand elle a mis la tête sur la poitrine, son valseur la dégage en fait. Mais Emma confond donc couplet et s'accoupler ou accoupler. Petite mort et mort symbolique. Quatrième paramètres, si vous voulez, de la situation de marge, c'est, ça vaut ce que ça vaut, hein, j'ai trouvé cette formule, le tutoiement d'un autre monde. On ne passe pas complètement dans l'autre monde, tutoie. Un autre monde sociologique, bien sûr, un autre monde culturel aussi, mais Marie l'a bien précisé, l'initiation exige surtout de s'exposer à un autre régime anthropologique. Sinon, c'est un apprentissage, c'est test de compétences et tout ce que vous voulez, mais on n'est pas dans l'ordre de l'initiation. C'est entrer en contact avec une forme d'altérité. Or, Emma fait ici l'expérience d'une forme d'altérité anthropologique. elle fait l'expérience d'une sorte d'éclipse du monde. Ce n'est pas une formule. Elle fait une incursion nocturne dans l'univers des ombres. En passant auprès des portes, la robe d'Emma par le bas s'est riflée au pantalon, leurs jambes entrées l'une dans l'autre. Une torpeur la prenait. Elle s'arrêta, ils repartirent, et d'un mouvement plus rapide, le vicomte l'entraînant disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber. Emma fait l'expérience concrète d'un déplacement guidé, dansé, érotisé, qui la conduit à passer des portes, à aller au-delà, à apparaître puis à disparaître, pour se trouver, dit précisément le texte, une précision qui n'a aucun impératif réaliste notoire ou obvie, jusqu'au bout de la galerie. Qu'est-ce à quoi la galerie ? Qu'est-ce que c'est la galerie ? Le vestibule était pavé de dalles en marbre. C'est la présentation du château, hein. Et le bruit des pas avec celui des voix y retentissait comme dans une église. En face montait un escalier droit et à gauche une galerie conduisait à la salle de billard. Comme elle la traversait, la galerie, pour aller au salon, Emma vit autour du jeu des hommes à figure grave qui souriaient silencieusement en poussant leur queue sur la boiserie sombre du lambris. De grands cadres dorés portés au bas de leur bordure, des noms écrits en lettres noires. Elle lut, donc quand elle y revient, elle le sait. Jean-Antoine d'Andervilliers, comte de la Vaubyessard, tué à la bataille de Coutras le 20 octobre 1587. Et sur un autre, elle lut Jean-Antoine Henri Guy d'Andervilliers de la Vaubyessard, amiral de France et chevalier de l'ordre de Saint-Michel, blessé au combat, mort à Vaubyessard le 23 janvier 1593. Puis, on distinguait à peine ceux qui suivaient, car les lumières des lampes laissaient flotter une ombre dans l'appartement. Brunissant les toiles horizontales, elles se brisaient contre elles en arêtes fines selon les craquelures du vernis. Et de tous ces grands carrés noirs bordés d'or, sortaient çà et là, quelques portions plus claires de la peinture, un front pâle, deux yeux qui vous regardaient. Cette galerie au portrait, ça s'appelle comme ça. Et ce qu'on appelle aussi une galerie d'histoire. C'est une galerie mémorielle, où des tableaux d'ancêtres de la lignée, il y en a des exemples en France encore, s'offrent à la vue sur des peintures accrochées au mur, mais aussi, comme le dit le texte, sur des toiles horizontales, c'est-à-dire posées à même le parquet, comme des pierres tombales dans les églises anciennes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on les marche dessus, mais un opus incertum. J'ai analysé d'ailleurs ce dispositif en détail ailleurs. Mais qui ne voit qu'Emma, au-delà du jeu entre Eros et Thanatos, au cœur de la nuit, il est 3h du matin, Emma fait l'expérience d'une étrangeté au cœur du familier. Cette Unheimlich que Freud rapporte le plus souvent à l'irruption d'une forme de soudaine présence des morts ou de leur double chez les vivants, du saltus dans la domus, comme nous disons en ethnocritique. La nuit profonde, l'isolement du couple, les boiseries sombres, les lettres noires, les hommes de guerre morts au combat ou à la Vaubyessard, l'ombre flottante et ses brisures, les carrés noirs, les craquelures de la matière, le front pâle et surtout ses yeux immobiles qui vous regardent. C'est un monde à l'envers du monde, où les morts, plus ou moins de mauvais morts, morts trop tôt et violemment disparus, ou ces morts, dans leur pénombre, regardent les vivants. Emma côtoie cette image des morts. Emma est ainsi entrée dans le royaume imaginaire des morts. C'est lors de cette catabase, cette expérience rituelle de la mort symbolique, qu'elle manque d'ailleurs de tomber, car de facto, elle valse sur ces toiles ou autour de ces toiles horizontales, qui sont les imagos des morts. Elle danse une forme de danse macabre, de mauvais augure peut-être. En tout cas, elle danse avec les morts, chez les morts. Cette expérience la bouleverse, corps et âme, si je puis dire, si bien que la valse doit cesser. Et son mystagogue la reconduit alors à sa place. Elle se renversa contre la muraille et mit dans la main devant les yeux, espace à la ligne, là aussi assez sémiotique de la spatialisation. Bon, quand elle les rouvrit au milieu du salon, il y en avait une autre qui avait pris la place et qui danse excellemment. Le blanc de la narration ne précise pas cependant combien de temps Emma mit la main devant les yeux, ni quelle vision intime l'a si profondément bouleversée jusqu'à rester seule avec elle-même, mais elle est manifestement éprouvée. Or, le texte dit ce que l'attitude d'Emma ne nous dit pas expressément. Enfin, le texte, l'intertexte plutôt. Ce roman, on l'a vu avec Marie et Marie-Christine, est pétri de culture lettrée et particulièrement de culture antique. Les personnages principaux du roman ignorent les lettres anciennes, mais le narrateur et son scribe les connaissent par cœur. Ils connaissent Virgile. Ils ont appris le chant 6 de l'Énéide. Ils ont suivi le voyage initiatique d'Énée guidé par la Sibylle vers le royaume des morts. Ils ont lu. C'est très célèbre. Hein. Ils allaient ombre obscure dans la solitude de la nuit. Ibante, etc. Ainsi, ils savaient tout ça par cœur. Hein. Les classes de rhétorique. Ainsi va-t-on dans les bois, la lueur ingrate d'une lune incertaine, devant le vestibule, le trépas et la peine, puis la torpeur, sœur du trépas, Virgile, Énéide, etc. Pour un lecteur lettré du 19e, le vestibule des enfers et le vestibule tout de marbre ecclésial où les époux Bovary sont accueillis dès leur arrivée, la galerie d'où l'on entend caramboler les boules d'ivoire, dans la salle de billard, et puis ces fameuses statues immatérielles qui personnifient l'au-delà, peine, trépas, torpeur. La torpeur sœur du trépas, comme cette torpeur qui envahit Emma, son corps défendant, un corps en proie à l'aura d'une marge initiatique, et peut-être à quelques frissons sacrés, il baissait ses regards vers elle, lui aussi il regarde, elle levait les siens vers lui, elle aussi elle regarde, une torpeur la prenait, elle s'arrêta, fatalement. Mais Emma est bientôt reconduite à sa place. Comme la valse, elle revient à son point de départ. Elle n'a pas vraiment passé toutes les portes de l'initiation. Son initiation est inachevée et imparfaite. Elle avait par contre le bon tempo, on ne l'a pas vu, mais pour la contredanse du début de soirée. Mais là, il n'y avait pas d'enjeu, si vous voulez. Elle se balançait au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant avec des mouvements légers du cou et un sourire lui montait aux lèvres à certaines délicatesses du violon. Mais ça, c'est des danses de groupe. Mais pour la valse, beaucoup plus mondaine et moderne ou romantique, tout se détraque, tout tourne et la tête d'Emma touche indûment le corps de son cavalier, alors que savoir valser pour une femme, c'est l'art de tenir son corps immobile. L'homme, lui, a quelque chose de féminin, au contraire, là, taille cambrée, coude arrondi, bouche en avant. Bref, Emma n'est vraiment pas cette cendrillon des contes de fées qui, dès sa première sortie, dès la première fois, danse avec une grâce admirable. Le texte le dit à sa façon, sans tarder. Le lendemain, elle se promena dans son jardinet, passant et revenant par les mêmes allées. La structure du récit se dédouble ou se redouble une dernière fois. Il n'y a pas des mises en abîme, mais des phases de séparation et des phases de marche. C'est une marche dans la marche, cette fois. Alors, on peut le lire réalistiquement. Hein. Elle est seule, après elle est fatiguée, après elle va se rafraîchir à la fenêtre. Et évidemment, il y a une lecture. C'est chronologique, si on peut dire. Mais ce n'est pas le texte. On causa quelques minutes encore, et après les adieux, ou plutôt le bonjour, les hôtes du château s'allèrent coucher. Emma mit un châle sur ses épaules, ouvrit la fenêtre et s'accouda. La nuit était noire. Quelques gouttes de pluie tombaient. Elle aspira le vent humide qui lui rafraîchissait les paupières. La musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles. Le petit jour parut. Elle regarda les fenêtres du château longuement, mais elle grelottait de froid. Elle se déshabilla et se blottit entre les draps contre Charles qui dormait. Ce monde ambigu de l'entre-deux, après les adieux ou plutôt le bonjour, ce monde-là ne sera jamais le monde de Charles, lui, qui est hors rite de passage et hors initiation. Il est statique comme étranger. Et c'est encore un moment, le monde d'Emma. Emma accoudée à la fenêtre, donc il tourne son auguste dos à Charles, toujours, de la nuit noire au petit jour, entre chien et loup. Emma, maintenant, a quitté la petite communauté aristocratique et festive. Et Emma est encore éveillée pendant que Charles dort seul dans leur lit. Il advient alors une seconde marge où le travail du rite bafouille et s'épuise et où se poursuit tant bien que mal le récit du rite. C'est une marge sans guide. Non, vaine, si vous voulez. Une marge solitaire, silencieuse, immobile. Pas passé. L'héroïne résiste, mais elle est fatiguée et envahie par les approximations de son imaginaire. Cette marge illusoire trouve son terme dans un sommeil symbolique qui signe cette fois le ratage dramatique de l'initiation et l'échec définitif du passage. Emma est nue, seule, froide, morte de sommeil. Et dans l'écriture du récit, ses illusions sont désormais mortes, comme elle qui se blottit entre les draps, comme dans un linceul, contre Charles, qui de toute façon dort, mais il y a une séparation. Le lendemain, c'est le départ, autrement dit la séparation définitive. C'est-à-dire qu'en fait, elle revient au stade antérieur, d'une certaine façon. Mais pas tout à fait, parce qu'elle a éprouvé que le rite, elle n'avait pas d'emploi. Enfin, elle s'est dépris du rite, ou le rite s'est dépris d'elle, en fait. Hein? Sachant que pour la puissance invitante à Vaubyessard, ce n'était pas un rite, c'est elle qui le fait, le rite. Pour elle, c'est une cérémonie, c'est une soirée mondaine où on a consenti à inviter un peu largement. Bon. Alors, on parlera, si vous voulez. Alors, le lendemain, c'est le départ, et donc la séparation définitive avec le monde de la Vaubyessard et ses enchantements. Emma, silencieuse, regardez tourner les roues. Charles, posé sur le bord extrême de la banquette, conduisait les deux bras écartés. Oui, là, c'est Charlot. Hein. Et le petit cheval trottait l'amble dans les brancards qui étaient trop larges pour lui. Et hop, on retourne, évidemment, et métoniquement, on voit bien de quoi il s'agit. Ils étaient sur les hauteurs de Thibourville. Emma crut reconnaître le vicomte. Elle se détourna. Un quart de lieue plus loin, il fallut s'arrêter pour accommoder avec de la corde le reculement qui était rompu, mais Charles, donnant au harnais, encore une fois, un dernier coup d'œil, vit quelque chose par terre entre les jambes de son cheval, et il ramassa le fameux porte-cigare, tout bordé de soie verte et blasonné en son milieu, comme la portière d'un carrosse de Cendrillon. Il mit sa trouvaille dans sa poche et fouetta le bidet. C'est donc le retour en arrière, c'est le retour en arrière, et pas l'agrégation à un nouveau monde, mais la réagrégation à la vie prosaïque d'avant. C'est l'échec du passage initiatique, désiré par elle. Je n'analyse pas ici l'humour grinçant du texte où Emma, la valseuse débutante, contemple hébétée la route fortune ou d'infortune. Je ne commente pas Charles Cochet comme un pantin don quichotesque. Je ne commente pas la silhouette du vicomte qui n'est qu'amertume ou le reculement, bon, évidemment. Je ne commente pas non plus le quelque chose entre les jambes du cheval qui fait écho dissonant et grotesque, au sens bactinien avec la valse avec le vicomte. Je ne commente pas ce fameux porte-cigare blasonné comme la portière d'un carrosse. Ce trait est pour Cendrillon. On verra plus tard. Cet autre trait aussi, les reliques du bal, objet fétiche d'une expérience rituelle dont close, une expérience rituelle close, dont le sujet Emma a été forclos. Elle serra pieusement dans la commode sa belle toilette et jusqu'à ses souliers de satin dont la semelle s'était jaunie à la cire glissante du parquet. Cette toilette et ses souliers sont des intersignes qui disent ou prédisent discrètement encore le destin funeste d'Emma. Je me suis intéressé à l'usage en discours de la mention du terme gauche, que j'ai appelé une sinistre mantique, pour une micro-sémiotique narrative entre intersigne et intrasigne. Intersigne, ça veut dire que gauche, dans la culture occidentale traditionnelle, c'est le mauvais côté. Mais le texte fabrique ses propres intersignes, ce que j'appelle des intrasignes, c'est-à-dire sur la base que le gauche, c'est sinistre et de mauvais augure, un texte littéraire ou autre, ou un fantasme, enfin, peut inventer, générer d'autres équivalences de ce type-là. On songe à ce qu'a dit Marie-Christine, en fait, à la relecture, a fortiori, à ces gouttes d'eau factices qui perlent en tremblotant de la rose qui orne son chignon du bal. Ce factice de la parade mondaine et érotique est de piètre présage. On songe à la cire de ses petits souliers de satin et à la cire des cierges du cortège funèbre, etc. etc. Et c'est tout le montage là qui se retrouve ici. On songe, tu l'as dit aussi, au geste coutumier de Charles, éploré, qui veut, je cite, qu'on l'enterre dans sa robe de noces avec des souliers blancs, une couronne. Ce palimpseste textuel de la tenue de noces, de la tenue de bal et de la tenue d'enterrement est en quelque façon l'enterrement symbolique de la femme mariée en son destin patriarcal. Mais le roman ne s'en tient pas à cet horizon, disons, victimaire de lecture. La femme qui transgresse les codes du mariage capte par moments l'aura de ces femmes mythiques qui incarnent une forme de puissance génésique, la jouissance calendaire et rustique, festive et cyclique de la beauté, de la fécondité et de la volupté. Ce sont les exemples 11 et 12 de l'exemplier, justement. Les amateurs de Dumézil ont reconnu la troisième fonction dans l'idéologie indo-européenne. C'était, je vais le lire quand même, c'était comme une matinée de printemps qui entrait, tu l'avais lu Marie-Christine, dans sa chambre. Emma tâtonnait en clignant des yeux, tandis que les gouttes de rosée suspendues à ses bandeaux faisaient comme une auréole de topaze tout autour de sa figure. Rodolphe, en riant, l'attirait à lui et il la prenait sur son cœur. On était au commencement d'avril, quand les primevères sont écloses, un vent tiède se roule sur des plates-bandes labourées et les jardins, comme des femmes, semblent faire leur toilette pour les fêtes de l'été. Emma s'affilie alors à cet univers vital qui fusionne en son imaginaire propre la nature et la culture, le cosmique et l'érotique, l'esthétique et l'esthésique. Cet ordonnancement, qui tient largement aussi de la féerie des contes et d'un imaginaire onirique, correspond à la composition florale choisie par Emma pour son apparition parmi les invités du bal à la Vaubyessard. Il la voyait par derrière dans la glace entre deux flambeaux, ses yeux noirs semblaient plus noirs, elle se prépare au bal là, hein. Ses bandeaux doucement bombés vers les oreilles luisaient d'un éclat bleu. Une rose à son chignon tremblait sur une tige mobile avec des gouttes d'eau factice au bout de ses feuilles. Elle avait une robe de safran pâle relevée par trois bouquets de roses pompons mêlés de verdure. Cet imaginaire assez commun au fond de la femme fleur, il se trouve que c'est aussi celui de Flora, la déesse romaine des jardins. Ovide, on va pas tout lire. « Je te salue, déesse des fleurs, toi dont la fête ramène les jeux folâtres. » Aussitôt que les feuilles ont secoué les froides gouttes de la rosée et que les tiges variées se sont réchauffées aux rayons du soleil, les grâces s'en emparent. Les fronts se couronnent d'un tissu de fleurs, les tables splendides disparaissent sous une pluie de roses, le convive, les cheveux saints des guirlandes que retiennent les filaments, etc. Certes, Emma ne trouvera jamais chaussure à son pied, et quand elle regarde en silence le tour que prend sa fortune, elle regarde silencieuse tourner les roues, qui la ramène dans sa maison. Le lecteur peut y lire un mixte allusif et elliptique de l'amertume et d'une naïve sottise, une sotte. La suite tendrait à lui donner raison. La journée fut longue le lendemain, comme le bal déjà lui semblait loin. Son voyage à la Vaubyessard avait fait un trou dans sa vie. Ah oui, mais ce n'est pas ce qu'a écrit le texte. On lit bien toutefois que le discours du roman n'est pas exactement celui que je viens de vous lire. On va le relire. La journée fut longue le lendemain, comme le bal déjà lui semblait loin. Qui donc écartait à tant de distance le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui ? C'est ainsi que par cette intervention méta-narrative, le personnage d'Emma interroge les signes d'un destin inscrit certes dans un temps expérientiel et cyclique, matin, soir, hier, aujourd'hui, mais aussi dans un temps mythique. Cette manipulation mythico-magique du temps est renvoyée subjectivement à une instance tragique, qui donc écartée, mais cette violence est comme sublimée par une prose poétique dans une phrase parfaitement rythmée, par la juxtaposition d'un décasyllabe régulier, qui donc écarté à tant de distance, suivi d'un alexandrin classique, le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui. Ce discours intérieur libre libère le personnage des pensées vulgaires et lui fait accéder à ce que parfois les anthropologues appellent le mysterium de l'être au monde. Pourquoi le rite n'a pas marché pour moi ? Qui suis-je ? Et c'est alors que la pensée sauvage se confond, sa pensée sauvage, qui donc écartait sa pensée sauvage, se confond avec celle du narrateur, s'il est indirectif, voire avec celle du lecteur ou de sa lectrice, en un énoncé à la beauté et à la profondeur, littéralement, je n'engage que moi, mythico-poétique. Elle y a droit. C'est aussi le lieu, donc, où la littérature enrichit l'anthropologie du rite en questionnant son déficit d'efficacité symbolique, au moins du point de vue de la passante. Pourquoi le rite n'a pas prise sur moi ? Le marquis avait invité Madame Bovary en contre-don de quelques boutures de cerisier de son jardin et pour sa belle taille, pas pour autre chose. Le dispositif d'invitation, comme disent les anthropologues pragmaticiens, c'est un dispositif régulatoire, c'est-à-dire c'est un don, c'est un contre-don. Elle, c'est ce qu'ils appellent un dispositif constitutif. J'y vais, c'est une initiation, etc. Voilà, notre lecture à trois voix. C'est essayer à entrer dans la poétique culturelle du roman entre lecture de la macro-structure narrative et micro-lecture des motifs qui la composent, peut-être en consonance avec Gustave qui écrivait le 21 août à Louise, en pleine écriture, réécriture, etc., élaboration du roman. Il faut à la fois ne pas perdre l'horizon de vue et regarder à ses pieds. Le détail est atroce, surtout lorsqu'on aime le détail comme moi. Les perles composent le collier, mais c'est le fil qui fait le collier. Or, enfiler les perles sans en perdre une seule et toujours tenir son fil de l'autre, voilà la malice. J'ai interrogé les... Je parle ethnologue et anthropologue, mais j'ai interrogé les... Je me suis interrogé, puis j'ai des contacts par activité avec des anthropologues, d'ici ou d'ailleurs. Je leur ai dit, mais au fond, on s'intéresse au fonctionnement du rite, voir si ça a bien marché, pas marché, etc. Mais on s'intéresse assez peu, en général, aux effets du rite sur les personnes qui estiment que ça n'a pas marché pour elles. Voilà. Ce que justement un anthropologue canadien, Kenelm Burridge, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était à Ottawa, au Toronto, c'est lui qui parle de mysterium, c'est-à-dire, bon sang, mais ce n'est pas un regard critique distancié sur le rite, c'est mais... Alors, qu'est-ce que je suis là, moi, si ça ne marche pas pour moi ? Et donc, c'est pour ça que je parlais de ce que l'anthropologie, ce que la littérature fait en anthropologie, c'est que par le travail du discours intérieur, à un moment, on peut être en situation scénarique où le personnage se dit, mais quelles sont les forces qui me structurent, qui m'organisent, qui me dépassent ? Elle va y revenir, d'ailleurs. Quand elle reçoit la lettre du père Rouault, je ne sais pas où je l'ai mis, elle y va y revenir, mais sous forme assez prosaïque, c'est-à-dire, c'est dommage que je ne le retrouve pas très vite, là, mais elle va assez souvent s'interroger sur... elle ne va pas s'interroger comme Rodolphe en disant, lui écrit c'est la fatalité, notre amour, bah, c'était voué à l'échec. Bon. Elle ne va pas faire comme Charles, d'ailleurs je l'ai porté dans l'exemple hier, Charles dit... Ouais, c'est vrai, c'était la fatalité. Bon, ça, c'est des mots qui sont convenus. Elle va y revenir. Regardez le travail de Flaubert. Qui donc écartait à tant de distance le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui ? Alors, je ne fais pas la critique génétique que je fais à Sauvette, là, si vous voulez, mais il avait d'abord écrit « Qu'est-ce qui écartait l'un de l'autre de distance si longue ?» Vous voyez ? Ontologiquement, existentiellement, phénoménologiquement, ça n'a pas d'intérêt beaucoup. Elle cherchait à comprendre comment si peu d'heures écoulées. Et il est arrivé enfin à cette formule-là qui embarque le lecteur, le narrateur et le personnage sur son être au monde, en fait. Et sur le fait que Pourquoi? Alors qu'on dit qu'une des dimensions du rite, Marie-Christine l'a dit, c'est d'être, qu'il oblige, qu'il a l'emprise sur les sujets. Là, c'est que justement, le rite n'a pas d'emprise sur elle et elle en est désolée. Et donc, elle est dans une espèce d'interrogation existentielle. Elle ne théorise pas sur le rite, mais vous voyez, et sur ce jeu de balance entre sur les temps qui s'inversent et tout. Je ne retrouve pas l'autre citation qui est beaucoup plus prosaïque. À plusieurs reprises, elle s'interroge sur l'origine de ses malheurs.
Ah, excusez-moi. J'ai une question sur cette scène du bal. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une scène qui est entre conte et légende? Donc, conte, je vois le travail exhaustif que tu as fait. Parce que moi, je pense à cette légende qu'on a ici au Québec, mais qui est. Il y a plus de 200 versions, tu vois, qu'on appelle au Québec ici Rose la Tulipe, mais c'est cette légende d'une danseuse, d'une jeune fille frivole qui va danser avec un inconnu toute la nuit et ses jours du Mardi Gras, et elle va dépasser minuit et va continuer à danser pendant le carême. Et je me demandais si tu pensais aussi que le texte était travaillé peut-être par cet imaginaire légendaire, à la fois conte et légende.
Je m'intéresse beaucoup à la légende, mais je n'ai pas pensé, je ne sais pas. Je pense qu'on sous-estime, parce qu'évidemment, conte, mythe, c'est noble, c'est légitime, et tout le monde a appris ça. Mais le fait divers et la légende, que je ne confonds pas, c'est moins, la plus-value symbolique est moindre, mais je pense que c'est très, très important dans les cultures occidentales, y compris aujourd'hui, les légendes urbaines. Mais enfin, oui, mais... Enfin, c'est une bonne question, j'ai pas réfléchi.
Mais est-ce que tu connais la légende? Est-ce que tu sais l'existence?
Il y a même un film.
Il y a les jeunes,
comment elle s'appelle?
Mais elle danse le jour de ses noces.
C'est une variation.
Mais c'est une variante, ça, c'est dans les contes types des contes folkloriques français, oui.
C'est même un conte.
Et
c'est
les sœurs qui dansent toutes les nuits. Ouais.
Voilà, et c'est la légende de cette femme qui danse, c'est une légende bretonne d'ailleurs, là, celle-ci.
Voilà, oui.
Qui danse le jour de ses noces, mais elle n'arrête plus de danser. Elle danse, et ensuite, et sauf qu'elle devrait s'arrêter de danser à un moment donné pour.
Mais on peut avoir une version légendée, c'est-à-dire c'est dans tel lieu, sur ce pont, tel jour, ou une version plus décontextualisée du genre conte. Oui. Et Cendrillon et le bal à Vaubyessard, c'était pour le travail pour la prochaine fois. Voilà, c'est. J'ai pas fait une étude, j'ai pas eu le temps, puis c'était pas le propos, c'est déjà long, mais je vous la propose en disant voilà, si ça vous intéresse ou si vous avez des élèves, je pense que c'est faisable, parce que le conte il est court, et le passage à Vaubyessard aussi. Et déjà, les initier à l'intertextualité, mais là, c'est. Franchement, c'est fascinant, quoi. Alors après, on peut faire le travail d'interprétation, mais que je n'ai pas fait du tout. Et puis à la fin, il y a même des hypothèses un peu amusantes sur Charles, comme c'est lui le Cussandron. Enfin, bon, mais ça, je n'ai pas fait le travail, et je vous l'offre.
Mais ça montre aux étudiants comment on peut travailler, une logique intertextuelle d'un texte.
Oui. Mais bon, je ne sais pas ce que vous pensez de cette montée en poésie, là, soudain, et en...
Oui. Alors justement... Parce que tu dis que c'est la littérature qui finalement lui accorde son passage d'une certaine manière avec ce, c'est vrai, cette extraordinaire phrase qui donc écartée. Enfin,
c'est même. C'est même pas ce que ça veut dire. Écarter le temps, enfin, c'est pas dans la mythologie. C'est Chronos qui écarte le temps.
Mais tu dis que finalement c'est la littérature qui finalement lui donne. Mais dans la vie aussi, c'est comme ça.
Oui.
Enfin, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas d'opposition forcément, parce que je trouve que c'est très beau cette histoire de mysterium.
Oui.
C'est-à-dire, au fond, pourquoi ça ne marche pas pour moi.
Mm-hmm. Voilà.
Et d'une certaine manière, je trouve que c'est ce que. Enfin, il me semble que chacun d'entre nous. Enfin, je veux dire, c'est pas. Et pour le coup, c'est l'histoire du crédit de la littérature. Alors peut-être que la littérature. C'était de dire que d'une certaine manière. Peut-être qu'elle met l'accent là-dessus, mais d'une certaine manière, c'est. Chacun d'entre nous ou chacun de pas.
C'est pourquoi ça, pourquoi les voilà. Rites qui devraient avoir une emprise sur les sujets du rite, il se déprend de moi. C'est affolant en fait.
Mais peut-être que la littérature, enfin, voilà. C'est pas tant que, au fond, si on écoutait tout le monde autour de nous, on serait tous surpris parce que chacun d'entre eux, enfin, je sais pas, pourrait dire des choses en disant, mais moi, ou voilà. Mais peut-être que la littérature a ce pouvoir de nous d'attirer notre attention sur ce phénomène, c'est-à-dire
Et quand j'ai
de donner des mots pour
de mettre des mots,
voilà, parce que
et pas de façon géniarde ou plaintive. Voilà. Enfin bon, c'est ni bien ni mal, mais en tout cas là, il y a quelque chose qu'elle se hausse à un niveau extraordinaire. Et quand j'ai contacté des collègues plus spécialistes à Bordeaux, à Paris ou ailleurs, ils m'ont dit, mais attends, c'est fascinant. Mais c'est vrai que nous, on ne s'intéresse pas à ça. Quand on va aux îles Vanuatu, on regarde si le rite marche. Et si le rite ne marche pas, mais on interroge assez peu le passeur, assez peu les gens qui sont concernés. Ça n'a pas bien marché. Bon, on dit, voilà, le rite a foiré. Mais c'est drôle, mais il y a une espèce d'angle mort. Je n'ai pas trouvé dans la littérature ethnographique. Peut-être que dans les discussions interpersonnelles, ça se dit. Et dans la littérature.
Et il y a quand même, dans ce qu'on sait, c'est l'histoire des qu'on hérite les malheurs. C'est-à-dire, c'est ça les logiques souvent. C'est-à-dire que si le rite prête sur moi, c'est que. Bon, il y a la faute à pas de chance, mais c'est souvent que la faute à pas de chance, elle est construite sur le fait que de toute façon. Il y a une sorte de généalogie de la faute dont tu hérites. Mais c'est souvent ça. Il y a quand même, je pensais à Jeanne Favre Saada et tout son discours sur qu'il faut des explications au malheur. C'est-à-dire, les rites n'ont pas fonctionné. Donc, ils ne fonctionnent pas, donc tu as le malheur. Il y a eu quand même des choses là-dessus. Enfin, c'est pas pour tout. C'est pas que. Il me semble qu'on s'intéresse quand même aux raisons qui font que le rite ne marche pas.
Oui, mais pas par la personne, pas sur le sujet.
Oui. Pas du point de vue de celui qui...
C'est mon modeste apport. J'ai découvert ça, c'est en quelque sorte. C'est la littérature qui...
S'en empare.
Voilà.
Du discours de celui
Le sujet qui se retourne sur lui-même dans sa solitude. Il est déritualisé en quelque sorte. Il s'est dit, mais putain, mais... Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Pourquoi ça ne marche pas avec moi? Bon Dieu. Après, elle dira, mais c'est nul. Mais qui donc la rendait si malheureuse? Où était la catastrophe extraordinaire qui l'avait bouleversée? C'est nul. Après, elle dira, quel malheur donc peut-il encore me survenir? C'est assez nul, si vous voulez.
Mais Alan vient de faire une remarque, mais la psychanalyse, c'est ça. Tu viens parce qu'il y a ratage et que tu ne saisis pas pourquoi.
Oui, ils viennent en consultation, si on peut dire, parce que ils sont en déflation de rite et ils disent.
C'est ça.
Ah ben ça, j'ai pas pensé.
C'est le ratage.
Oui, mais qui prennent comme. Et comment vous... C'est un dialogue, moi, j'ai fait un peu la stylistique, parce que c'est facile, mais c'est quoi cet imaginaire d'écarter à tant de distance, d'ailleurs, c'est distance spatiale et temporelle, le matin d'avant-hier, le soir d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le matin, oui, c'est avant la Vaubyessard, c'est-à-dire quand elle était pleine de ce désir de s'accomplir, de trouver un sens et de trouver un autre...
C'est même pas la distance, c'est un trou.
Oui, après elle va. Alors après, il y a une déflation dans la cosmologie verbale. Enfin, c'est un trou. Bon, ça fait un trou. On voit bien que le trou, c'est la mort et tout. Mais quand même, c'est moins puissant, il me semble. Enfin, ça fait un trou.
C'est
une déchirure. Vas-y.
Mais c'est parce que c'est axiologique, c'est que tu as autant l'horizontal que le vertical. Tu as la distance. Et t'as le trou, donc c'est intéressant parce que tous les axes sont convoqués, en fait. C'est pas simplement l'écart, c'est aussi la chute, c'est tout
et
ça.
Et puis, pour aller dans... Oui, elle est condamnée à fétichiser sur les objets métonymiques du bal, quoi. Qui a foiré, d'ailleurs, mais enfin...
Pas dans l'écart.
Mais c'est un écart
spatial. En ethnopsychiatrie, alors.
Ethnopsychologie.
Ethnopsychologie, oui. Toby Nathan.
Georges
Devereux. Devereux, oui. Mais ils se disent, on est ensorcelé, qu'on est maudit.
On est maudit.
Denis Klaas, c'est même au-delà, quoi. C'est ça le mystérium.
C'est des oubliés du rite.
Là, non, mais elle ne sait pas. C'est terrible. elle ne sait pas ce qui lui arrive en quelque sorte, mais c'est pas par sottise quand même là. Enfin, je pense que c'est peut-être un peu mièvre de s'ébahir de cette phrase là, mais j'assume volontiers quoi.
Disons qu'il y a beaucoup d'écart là-dedans.
Oui, c'est pas la Bovary niaise ou c'est pas une nunuche. Donc je pense que le test là, il a des éruptions. Il n'est pas attendu, quoi. C'est un peu ce qui nous diffère. Enfin, nous, en ethno, quand même, on cherche les régularités, mais les singularités aussi des produits culturels. Qu'est-ce qu'ils appellent ? Là, c'est inattendu. Je veux bien que ça soit écrit en 1854, mais enfin, est-ce que 1854 ou 56, ça va expliquer ça ? Possible, mais alors, par quelle chaîne de médiation ?
Oui, mais même quand on continue, c'est intéressant, ouais. Pieusement.
Ah oui ?
Parce qu'en fait, il y a là une sorte de religiosité qui ouais. Est réintégrée voilà. Par elle. Ouais.
Hein. Elle essaie comme de se faire...
Elle essaie d'y revenir.
Un oratoire.
Oui, oui, oui.
Oui, tu as raison.
Oui, parce que ça aurait pu être autre chose. Quoi.
Oui, oui.
Mais
oui,
pieusement.
Oui, oui, pieusement.
Elle a essayé plusieurs verbes.
Et elle essaie de sauf que le rite, c'est social. Enfin, on parle d'autre ouais. Chose. Ouais. Et c'est ça qui fait que, traditionnellement, en cours d'ethnocritique, on dit le rite oblige. On n'a pas le choix. Anniversaire, on n'y coupe pas.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Le rite socialise. Le rite dramatise, le rite distingue, et maintenant, enfin, j'ajoute, le rite interroge, dans certains cas. Pas au sens de dire, bouh là là, ils ont des rites un peu bizarres, mais c'est le rite indigène, quoi, endogène. Le rite, dans certains cas, interroge, ou questionne. Franchement, là, on est entre nous, mais c'est vrai que Cendrillon, par exemple, moi, c'est une fois qu'on a produit l'hypothèse, hypotextuel, c'est on voit que ça. Dans la question épistémologique, c'est comment ça se fait qu'on le voit pas. On le sait, enfin c'est les hypothèses réalistes, le fait que les effets de réel, de détail, de tous ces trucs là, qui fait que hein, Marie.
Non mais c'est parce que je me dis c'est des préoccupations qu'on a parce que c'est tu fais 40 ans que tu travailles dessus, on a travaillé, on retravaille et puis à un moment donné tu vois. Mais
c'est comme la citation que tu as donnée, la belle au bois dormant, celle ouais. Qui se pique le doigt avec le bouquet de mariée, tout y est, quoi, on ne voit plus que ça.
Bah, c'est-à-dire qu'après, oui, quand tu commences à voir tout le chapitre, tu te dis, mais c'est pas possible. Il réécrit vraiment la belle au bois dormant.
Voilà. Et même il réécrit Barbe Bleue, on a fait des articles là-dessus, et il réécrit Cendrillon.
Voilà, mais c'est vrai que pourquoi ne pas voir ça alors qu'on...